Alors, Monsieur Valiquette, tout à l'heure, nous a longuement expliqué, démontré assez efficacement, ma foi, que la génération Z, tous ces jeunes qui auront 16 ans bientôt, sont tombés dans les nouvelles technologies, comme Obélix dans la potion magique, que c'est pour eux un vocabulaire presque inné, et qu'ils seront peut-être désormais les premiers acteurs de la culture, puisque des consommateurs qui refuseront le contrôle, qui auront un respect relatif pour la vie privée et qui voudront surtout échanger librement ce qui tiendra lieu pour eux de culture. Donc échanger, recréer, recomposer cette culture selon leur goût très personnel. Alors on va poursuivre en parlant justement de cette dimension des consommateurs, donc de la culture, face aux nouvelles plateformes de diffusion de la culture. On va élargir bientôt, bien sûr, on ne parlera pas que des jeunes de 16 ans ou 17 ans bientôt. Alors comment aborder dans ce premier panel la question de la diversité des expressions culturelles dans un contexte où les citoyens, quel que soit leur âge, ont des pratiques culturelles de plus en plus diversifiées et sans cesse renouvelées. Alors, deux conférences d'abord d'une vingtaine de minutes et je vais tout de suite, je vous présenterai les conférencières à tour de rôle. Dans un premier temps, Mme Marie-Claude Lapointe, qui est professeure adjointe au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est à titre de chercheure universitaire qu'elle s'intéresse notamment à l'évolution des pratiques culturelles et aux changements provoqués par les nouvelles technologies. Elle a travaillé auparavant au ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports, occupé aussi un poste de chercheur au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, où elle a été responsable, et voilà, c'est ce dont elle va nous livrer les données maintenant, responsable de l'enquête sur les pratiques culturelles au Québec pendant 4 ans. Madame Lapointe, s'il vous plaît.
Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Le titre de la présentation, c'est « Les changements induits par les technologies dans les pratiques culturelles au Québec ». La présentation va se décliner en cinq sections. Dans un premier temps, je vais vous parler des enquêtes sur les pratiques culturelles au Québec qui sont menées par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Ensuite, je vais faire un petit portrait des technologies en 2009 parce que l'enquête a été faite en 2009. On va ensuite discuter des pratiques culturelles en ligne versus les pratiques culturelles plus traditionnelles. On va voir un peu comment les gens occupent leur temps avant de conclure. Tout d'abord, ce n'est pas une surprise, on en parle depuis ce matin. Les technologies amènent beaucoup de changements en termes de pratiques, en termes de production et aussi en termes de diffusion. Et ces changements-là suscitent beaucoup d'intérêt. Il y a de plus en plus, on va se pencher de plus en plus sur l'influence des technologies sur différentes sphères de la vie, comme les pratiques culturelles. Il y a des colloques, des forums, comme aujourd'hui, et des enquêtes qui vont se pencher sur ce sujet-là. C'est le cas de la France, c'est le cas des États-Unis, qui mènent des enquêtes sur les pratiques culturelles à intervalles assez réguliers aussi. D'ailleurs, les derniers rapports qui ont été publiés portaient dans leur titre même une référence aux technologies. Si je pense au rapport de l'enquête française, c'est les pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique. Donc, il y a vraiment un engouement pour ça. Les technologies, évidemment, ça change les façons de faire, mais les pratiques demeurent. Donc, qu'on achète de la musique dans une boutique ou qu'on l'achète sur Internet, il reste qu'on consomme de la musique. Les pratiques demeurent, elles sont réelles, mais le support, évidemment, change et ça amène un lot d'adaptation. Donc, ces changements-là les technologies amènent beaucoup de changements, mais comme on l'a dit aussi, il n'y a pas que du bon et il n'y a pas que du mauvais à l'avènement des technologies. Déjà en 2001, Pastinelli nous mettait en garde contre le fait de prendre une vision vraiment utopiste ou de désenchantement par rapport aux pratiques culturelles en disant bien, il y a tout un univers entre les deux et c'est important de nuancer cette réalité-là. On a eu tendance à opposer les pratiques selon qu'elles sont virtuelles ou réelles, alors qu'en fait, la différence principale se trouve dans les supports qu'on utilise. À cet égard, bien qu'on ait annoncé souvent la mort des médias, on se disait toujours à chaque fois qu'il arrive un nouveau média, ça va tuer les précédents, bien, ça ne s'est jamais produit. La télévision n'a pas tué la radio, tout comme l'Internet n'a pas tué la télévision. Sauf que l'arrivée d'un nouveau média fait en sorte qu'on doit s'adapter, on doit innover, on doit souvent redéfinir des rôles. Maintenant, je vous parle un peu des enquêtes sur les pratiques culturelles au Québec du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, parce que c'est de cette enquête-là que proviennent les données que je vais vous présenter. Ce sont des données préliminaires, alors évidemment, il y en aura d'autres qui seront publiées au cours des prochains mois. C'est une enquête qui est menée aux 5 ans par le ministère depuis 1979. Un aspect très intéressant de cette enquête-là, c'est qu'elle n'est pas sectorielle. Elle va prendre la mesure de plusieurs activités culturelles, ce qui fait qu'on peut les mettre en lien les unes avec les autres. À titre d'exemple, on va questionner les gens sur leurs pratiques médiatiques. Donc, est-ce qu'ils écoutent la télévision? Est-ce qu'ils écoutent la radio? Quelle utilisation ils vont faire d'Internet? On va les questionner également sur les pratiques en amateur qu'ils font, sur la fréquentation des lieux culturels comme les bibliothèques, les musées, les galeries d'art. Donc, il y a vraiment un gros univers de pratiques qui est couvert. La dernière collecte de données a eu lieu au printemps 2009. Comme à chaque année où a lieu l'enquête, elle se fait par entrevue téléphonique. Donc, c'est les gens qui mesurent eux-mêmes leurs pratiques. C'est de l'autodéclaration. En 2009, on a eu le plus gros échantillon jusqu'à maintenant, depuis 1979. Donc, c'est 6878 habitants du Québec qui ont répondu à un questionnaire téléphonique dans en moyenne 25 minutes. C'est vraiment énorme et le taux de réponse est d'autour de 52 %. Donc, c'est très bon. Considérant l'époque à laquelle on vit. Pourquoi on a un si gros échantillon? Bien, d'abord, parce qu'évidemment, on veut que les informations, on veut que nos données soient représentatives de la population québécoise. On veut être capable de généraliser les données. Mais au-delà de ça, on veut aussi être capable de faire des analyses selon les régions administratives. Les personnes de 15 ans et plus sont celles qui sont visées par le sondage et elles doivent habiter dans des ménages privés. Donc, toutes les personnes qui habitent dans des ménages publics, comme les prisons, les couvents, les centres hospitaliers de soins de longue durée, ne sont pas rejointes dans le cadre du sondage. En 2008, quand on a fait la révision du questionnaire, évidemment, à l'instar de la France, à l'instar des États-Unis, on se questionnait beaucoup sur l'influence des technologies, l'utilisation de plus en plus grande qui en est faite par les gens. Donc, on a vraiment révisé le questionnaire puis on a ajouté beaucoup d'informations sur l'équipement audiovisuel que les gens ont à la maison et l'utilisation qu'ils font d'Internet. Les premiers résultats de l'enquête vont démontrer quelque chose qu'on sait déjà, mais ça le confirme, c'est qu'il y a une augmentation des équipements dans les ménages québécois. Ça, c'est une tendance qu'on remarque depuis les tout débuts des enquêtes sur les pratiques culturelles au Québec. À mesure qu'il y a des appareils audiovisuels qui sont lancés, les gens se les procurent et les conservent dans leur foyer. Donc, vous le voyez pour le lecteur CD, pour le lecteur DVD, le cinéma maison et tout ça, à mesure que les années avancent, sur le graphique, vous avez l'information pour les années 99, 2004 et 2009. Pour la plupart des équipements, évidemment, ils ne sont pas tous là, mais pour la plupart des équipements, il y a une augmentation au fil des ans de la proportion des ménages qui les possèdent. L'exception, je vous dirais, c'est le magnétoscope. On remarquait une stagnation depuis entre 1999 et 2004. Et là, en 2009, on se rend compte que la proportion de ménages qui en ont à la maison diminue. Ça s'explique probablement par le fait que le lecteur enregistreur DVD a exactement ou presque les mêmes fonctions qu'un magnétoscope. Le lecteur Blu-ray aussi prend de plus en plus d'importance. Donc, quand il y a un équipement qui apparaît sur le marché qui a les mêmes fonctions, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a une diminution. Mais sinon, quand un appareil arrive avec des fonctions différentes, il s'ajoute aux appareils que possède déjà le ménage. Je le disais tout à l'heure, on voit que l'apparition d'un nouveau média s'ajoute aux anciens. C'est vrai aussi dans le cas de la connectivité. Les ménages sont de plus en plus nombreux à être connectés à Internet, mais ça ne fait pas nécessairement en sorte, par exemple, qu'ils vont être moins branchés sur les services télévisuels. Les informations que vous avez ici sur le tableau comparent les données de 2004 à celles de 2009. Pour ce qui est de la connectivité Internet, il faut savoir que la base sur laquelle est faite cette statistique-là, c'est les ménages qui possèdent un ordinateur à la maison et non pas l'ensemble de la population. Donc, en 2004, il y avait environ 56 % des ménages qui possédaient un ordinateur à la maison qui étaient branchés à Internet. En 2009, cette proportion-là est de 93 %. Si on regarde les gens qui sont abonnés à la télé payante ou à la télévision satellite, on voit qu'entre 2004 et 2009, ça n'a pas stagné, ça n'a pas diminué. Au contraire, ça a augmenté. Donc, pour la télé payante, la proportion de ménages québécois abonnés est passée de 25 à 39 % et pour la télévision satellite, d'environ 13 à 24 %. Il n'y a que pour le câble où on note une petite diminution, mais comme vous voyez, c'est pas majeur, c'est environ 3 points de pourcentage en 5 ans. Donc, le fait d'être abonné à Internet ne fait pas nécessairement en sorte que les gens vont être abonnés à moins d'autres services. L'ordinateur et Internet ne font pas exception. Les ménages sont aussi de plus en plus nombreux à en avoir. Ce que vous avez comme information sur le graphique, c'est la proportion de ménages qui possèdent un ordinateur à la maison. Vous avez pour les années, encore une fois, 99, 2004 et 2009. Vous voyez que pour le nombre de foyers qui possèdent un ordinateur à la maison, il y a une augmentation considérable en 10 ans. En 99, il y avait environ 45 % des gens qui avaient un ordinateur à la maison. Et maintenant, on tourne autour des 80 % des gens qui ont un ordinateur à la maison. Même chose pour la connexion Internet. Donc, ça augmente considérablement. Et en 2009, on est rendu avec 93 % des ménages qui ont un ordinateur qui sont branchés à Internet. Pour ce qui est de la vitesse de la connexion, c'est malheureusement une information qu'on n'avait pas dans les enquêtes précédentes, mais qu'on a ajoutée à l'enquête 2009. Il y a 70 % des gens qui sont abonnés à Internet qui le sont à Internet haute vitesse. On observe par ailleurs des inégalités d'accès par rapport aux équipements technologiques, particulièrement aux ordinateurs. On remarque cette tendance-là aussi pour différentes pratiques. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on le remarque aussi pour les ordinateurs. Et c'est important de le mentionner, il y a des différences pour les ordinateurs, pour l'Internet, pour le fait d'être branché ou pas à Internet et pour la vitesse de la connexion, mais les informations que je vous présente sont surtout vraies pour le fait d'avoir un ordinateur à la maison. Donc, à partir du moment où les gens ont un ordinateur à la maison, les différences de connectivité s'atténuent, mais il en reste encore. Donc, comme pour plusieurs pratiques, il y a des différences selon l'âge. Donc, si les gens qui sont jeunes, habituellement, habitent dans un ménage où il y a un ou plusieurs ordinateurs, à mesure que les gens avancent en âge, bien, ils sont proportionnellement plus nombreux à ne pas avoir d'ordinateur à la maison. On remarque aussi une différence selon le niveau de scolarité des gens. Donc, plus les gens sont scolarisés, plus ils sont nombreux à habiter dans un ménage où il y a un ordinateur, une connexion Internet et une connexion haute vitesse. C'est la même tendance par rapport aux revenus. Plus les gens sont aisés financièrement, plus ils vont être nombreux à avoir ces équipements-là à la maison. On note aussi des différences selon le sexe. Celle-là, par exemple, s'atténue d'année en année. Auparavant, il y avait vraiment des différences plus importantes entre les hommes et les femmes, les hommes étant un peu plus technologiques que les femmes, donc ils habitaient dans des ménages, ils étaient plus nombreux à habiter dans un ménage où on avait de l'équipement technologique. C'est encore le cas, mais les différences s'atténuent beaucoup. Et un autre aspect pour lequel on constate des inégalités, c'est selon le territoire qu'on habite dans la province. Sans surprise, c'est dans les régions centrales, la capitale nationale et Montréal, où on retrouve le plus grand nombre de ménages qui ont accès à cet équipement-là, les ordinateurs, la connexion Internet et tout ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas dans les régions éloignées des grands centres qu'on retrouve le moins de gens qui possèdent un ordinateur ou qui sont branchés. Donc, ce n'est pas dans les régions de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine ou en Abitibi-Témiscamingue qu'on retrouve le moins de gens qui possèdent un ordinateur ou qui sont branchés. C'est plutôt dans les régions qu'on appelle intermédiaires, comme le centre du Québec, par exemple, qu'on va retrouver le moins de gens qui ont ce genre d'équipement. La raison pour laquelle je parle un peu de ces inégalités, c'est qu'évidemment, l'ordinateur, l'Internet, on en a parlé tout à l'heure, nous donne accès à tout un univers culturel, à un univers de diffusion, de production. Ça nous permet de créer, donc d'y avoir accès ou de ne pas y avoir accès. Ça change évidemment la donne pour les pratiques qu'on pourra faire ultérieurement. Je vous disais qu'une pratique en ligne puis une pratique traditionnelle, ça demeure que c'est une pratique, mais il faut voir que les pratiques en ligne gagnent du terrain. Donc, ce que vous avez dans le tableau à l'écran, c'est la différence entre des pratiques en ligne et des pratiques qui ne sont pas faites en ligne. On a demandé aux gens, bon, est-ce que vous écoutez la télévision à tous les jours? Et il y a près de 96 % des gens qui nous disent oui. On leur a demandé, est-ce que vous utilisez Internet pour écouter des émissions de télévision, soit en direct, soit en différé? Et il y a 26 % des gens qui nous ont répondu utiliser Internet à ces fins-là. Même chose pour la radio, on a fait exactement le même genre de questions, donc environ 82 % des gens écoutent la radio, mais environ 29 % disent utiliser Internet pour écouter la radio. Pour visiter un musée ou une exposition en ligne, à peu près 34 % des gens au Québec ont dit s'être déplacés pour avoir visité un musée ou une exposition en ligne, et il y a presque 13 % des gens qui disent utiliser Internet pour faire la même chose. Pour ce qui est des films, il y a environ 37 % des gens qui nous disent « ben moi, j'ai loué un film dans un club vidéo au cours de la dernière année, au moins un film. » Et il y a environ 10 % des gens qui ont dit « ben moi, j'utilise Internet pour télécharger des films. » Alors, ce qu'on voit, c'est que les pratiques Internet, les pratiques en ligne gagnent du terrain, mais ça ne fait pas en sorte que les pratiques plus traditionnelles disparaissent. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, bon, Internet est un véhicule de plus en plus utilisé pour la culture. Le fait que les gens se sentent de plus en plus en confiance par rapport à Internet les amène à acheter des produits culturels sur Internet. En 2009, on a demandé aux gens s'ils utilisaient Internet pour acheter, vendre ou commander. Il y a 42 % des gens qui nous ont dit oui. Alors, on leur a demandé, est-ce qu'il vous arrive d'acheter des billets de spectacle, des livres ou des disques? Et dans 56 % des cas, les gens nous ont dit, oui, quand j'achète en ligne, ça m'arrive d'acheter des billets de spectacle. 37 % des gens ont dit, ben moi, j'achète des livres et 24 % des disques. À titre comparatif, ou plutôt indicatif, parce que les catégories n'étaient pas exactement les mêmes, en 2004, il y a à peu près 35 % des gens qui disaient acheter des billets de spectacle ou de cinéma sur le net, et 28 % des gens qui disaient acheter des livres, des disques ou des DVD sur Internet. Maintenant, je voudrais me pencher un petit peu plus sur le cas de la lecture. Bien sûr, on s'inquiète, entre autres pour les journaux, de l'arrivée d'Internet, le fait que les gens lisent de plus en plus sur Internet. Ce qu'on réalise, en tout cas pour ce qui est des journaux, c'est que le papier domine quand même encore. Ce que vous avez sur l'écran, c'est en fait la fréquence de lecture des quotidiens selon le support qui est utilisé. Donc, la première colonne, celle qui est orangée, c'est peu importe le support. La lecture des quotidiens se fait peu importe le support. Donc, ce sera tantôt un support électronique, tantôt un support papier. La colonne plutôt rouge, c'est la lecture qui se fait sur papier. Et la colonne beige, c'est la lecture qui se fait sur Internet. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même plus de 50 % des gens qui ne lisent jamais leur quotidien sur Internet. Si on regarde dans les gens qui sont des lecteurs plus réguliers des journaux, qui les lisent donc tous les jours ou presque, on se rend compte que pour un peu plus de 50 % des gens, ils vont utiliser tantôt un support, tantôt l'autre. Donc, on va être tantôt sur un format électronique et tantôt sur un support papier. Il y a encore quand même tout près de 50 % des gens qui utilisent surtout le papier pour lire leur quotidien tous les jours ou presque. Et la lecture sur Internet gagne effectivement du terrain, donc c'est à peu près 20 % des gens qui vont dire « moi, je lis mon journal tous les jours ou presque sur Internet ». Maintenant, pour ce qui est des revues et des magazines, ce qu'on réalise, c'est que là, les lecteurs préfèrent largement le papier. Il y a environ 80 % de la population québécoise qui déclare lire des revues et des magazines, et parmi eux, il y en a 78 % qui disent « ben moi, je lis surtout sur papier ». 6 % qui vont dire « moi, c'est surtout sur Internet » et il y a à peu près 16 % des gens qui vont dire « mais moi, c'est tantôt sur un support, tantôt sur l'autre ». Il y a un élément qui est intéressant, c'est sûr qu'on peut difficilement parler d'une tendance parce que les chiffres sont plutôt petits, mais ce sera quelque chose qui devra être surveillé. Ce qu'on réalise, c'est que la proportion d'hommes qui lisent sur Internet dépasse la proportion de femmes. Donc, on va chercher des gains chez les lecteurs lorsque le support est informatisé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Comme je vous le disais, c'est difficile de dire à ce stade-ci parce que les chiffres sont petits, mais ce sera une tendance à surveiller. Pour les livres, je pose la question, les lecteurs de livres sont-ils prêts pour le livre électronique? C'est sûr qu'on pourrait voir la question autrement. Est-ce que le livre électronique est prêt pour les lecteurs? Il y a à peu près 84 % des gens qui disent lire des livres. Parmi eux, encore, 92 % préfèrent le papier. Surtout des gens qui vont lire surtout sur Internet ou support électronique, c'est à peine 2 % des gens, et qui vont lire tantôt sur un support, tantôt sur l'autre, c'est à peu près 6 % des lecteurs de livres. Ici encore, la tendance des hommes à être plus enclins à lire sur un support électronique sera surveillée. Les chiffres ici ne sont pas très élevés pour qu'on puisse tirer ce genre de conclusion-là, mais ce sera quelque chose à surveiller. On parle de l'occupation du temps, on se dit toujours, les gens, quand ils passent du temps sur Internet, forcément, c'est du temps qu'ils n'accordent pas à d'autres activités. Donc, ce que j'ai voulu illustrer ici, c'est un peu le découpage qui est fait selon différentes activités, le temps passé sur Internet, le temps accordé à la lecture, à la télévision, à la radio. Ici, je voudrais juste préciser que les données qu'on a, ça ne provient pas d'études budgétaires. Donc, c'est les gens qui nous disent combien de temps environ eux autres, ils perçoivent occuper leur temps à ces différentes activités-là. Donc, les gens, en moyenne, vont passer 1h50 sur Internet à chaque jour, vont lire environ 1h20, mais ça, c'est lecture tout support confondu et tout genre de lecture confondu. Vont consacrer un peu plus de 2h30 à l'écoute de la télévision et environ 2h à la radio. C'est des moyennes. Ce que je veux illustrer par ça, c'est de vous montrer que, dans le fond, ce n'est pas parce que les gens consacrent du temps à Internet que nécessairement ils vont délaisser d'autres activités culturelles. Donc, parmi les gens qui passent plus de 3 heures par jour sur Internet, il y en a 45 % qui disent aussi lire plus de 2 heures par jour. Et ceux qui vont être sur Internet 3 heures et plus par jour sont aussi plus nombreux à déclarer lire des livres souvent. Donc, est-ce qu'Internet est un stimulateur culturel? Est-ce que c'est un nouveau support qui permet aux gens de lire? On peut penser que c'est un incitateur. Mais ces données-là vont aussi dans le sens de d'autres données qui ont été présentées, entre autres par Pronovo, qui a travaillé à partir des enquêtes sociales générales, où il dit, bon, bien, quand les gens passent beaucoup de temps sur Internet, souvent, là où ils vont couper, le CEFRIO le disait aussi, là où ils vont couper, c'est pas tant sur les activités culturelles, sur les autres activités culturelles, plutôt que sur le temps de sommeil, le temps de travail ou les activités de socialisation. Peut-être pas Facebook, là. Oui. Donc, pour conclure, les nouveaux médias ne remplacent pas les anciens, on le voit très bien, mais ça force tous les médias à se redéfinir, à revoir leurs priorités. Ça amène quand même des bouleversements. On a toujours des inégalités d'accès, notamment pour l'ordinateur, les connexions Internet. Certains parlent d'un retour à la distinction, mais quand on voit comment la proportion de ménages qui disposent d'un ordinateur et d'une connexion Internet augmente au fil des ans, on peut penser que ce retour à la distinction sera de passage, ce sera temporaire. Pour ce qui est de la lecture, on remarque qu'il y a encore une préférence assez marquée pour le papier en 2009. Comme je le disais, est-ce que c'est une question que les technologies ne sont pas encore rendues assez développées pour faire en sorte que les gens souhaitent lire un livre sur un support électronique, par exemple, ou dans le cas du quotidien, il y a l'aspect gratuité qui peut jouer aussi. On réalise que les gens qui lisent des quotidiens sur support électronique, dans 90 % des cas, c'est un produit qui est gratuit, comparativement à 25 % des gens qui vont lire un produit gratuit sur papier. Donc ça, ça peut jouer aussi. Chose certaine, Internet semble être un stimulateur culturel, donc il permet d'avoir accès à beaucoup de produits culturels, et c'est important pour ça qu'on réduise les inégalités d'accès le plus rapidement possible. Alors voilà, je vous remercie de votre attention.